Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et de Wani ou Amakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Mouni.
Chien Nibiri. Sigi Kafomba.
Réinsertion socio-économique des migrants de retour au Mali, défis et perspectives, c'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. De nombreux Maliens rentrent chez eux au Mali. Ces retours se font pour de nombreuses raisons. C'est volontaire pour certains et d'autres se font expulser. Beaucoup aussi reviennent avec des projets en tête dans le but de développer leur pays. Quel est le regard de la société sur ces migrants de retour? Comment s'effectue leur réinsertion? Quels défis et perspectives pour ces Maliens? Pour en parler aujourd'hui, nous avons invité M. Mohamed Lamine Ban, chargé de la migration au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Avec lui, il y a Doussouba Konaté, migrante de retour, actuelle directrice de Ecountability Lab Mali, j'espère que je prononce bien. À côté d'elle, il y a Dr Abdoulaye Konaré, économiste. Moi, je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous allons donner la parole à Doussouba Konaté, à savoir qu'est-ce qui a motivé déjà votre retour au Mali et les préparatifs en amont. Quand est-ce que vous avez pris la décision de revenir au Mali?
D'accord. Ben, merci beaucoup de l'invitation et merci de m'avoir donné la parole. Je pense que la décision... Déjà, j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents, même si on a grandi à l'extérieur. Tous les deux ans, on venait ici en vacances. Donc déjà, je pense que ça a créé ce sentiment d'amour, en tout cas, envers le pays d'origine des parents. Et pour être honnête, en fait, c'est en 2012, vraiment, que j'avais décidé de revenir. Malheureusement, ça a coïncidé avec la crise. Donc je n'ai pas pu revenir à ce moment-ci. Mais c'était toujours là, gravé dans ma tête. Et même quand j'ai fait mes études à l'international... J'ai fait exprès d'étudier en relations internationales, en coopération internationale, tout ça dans l'optique de revenir ici au Mali et puis de voir ce qui est possible d'être fait. Donc finalement, c'est en 2018 que j'ai décidé de revenir. Et là, ça a été un petit peu forcé parce que bon, malheureusement, le papa était malade. Il a fait deux AVC. Ils avaient décidé de revenir s'installer au Mali pour de bon. Donc à ce moment-ci, j'étais au Canada et là, j'ai décidé de les accompagner. Donc mon billet d'avion, c'était un billet d'avion de 6 mois. Mais je savais quand même que j'allais essayer de voir si je pouvais trouver des opportunités. Et voilà, le 6 mois s'est transformé en 4 ans au jour d'aujourd'hui. Et voilà. Mais je pense que vraiment la raison principale, en fait, c'est l'amour du pays que les parents aussi m'ont transmis. Et peut-être si je peux raconter une toute petite anecdote, je me rappelle que je pense que moi j'ai obtenu la nationalité française à l'âge de 10 ans. Et cette journée-là, on est parti à la mairie, on est venu, on m'a remis les papiers. Et au moment où j'allais un peu m'extasier, mon père il m'a fait « Tu es malienne, hein, tu t'arrêtes tout de suite ». Donc je pense que vraiment j'ai été éduquée comme ça, où vraiment le Mali a toujours été présent. On venait souvent, donc pour moi, c'était naturel même de
Alors, revenir, M. Mohamed Lamine Ban, vous, au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, vous voyez souvent des jeunes qui décident de revenir, ou bien c'est votre première fois de voir ce cas-là, des Maliens qui décident de revenir au pays, vous en voyez souvent?
Tout à fait. Je pense que tout d'abord, je salue tous les auditeurs de Studio Tamani au nom du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Et je salue ma sœur Doussou Konaté. Je te dis félicitations. Merci. Et elle a suivi le pas de plusieurs générations auparavant. Vous savez, le retour au pays, comme elle l'a dit, c'est un sentiment d'appartenance et d'attachement à la patrie. Je pense que c'est quelque chose, on en parle aujourd'hui avec la jeune génération, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de précédents. Il y a eu beaucoup de précédents. Vous voyez l'ancien... Et comment dirais-je, l'ancien ministre et l'ancien médiateur de la République. Je l'appelle souvent le doyen des Maliens nés à l'étranger. Baba Akib Haïdara est un Malien de retour, né à l'étranger, né en République du Congo, donc qui est revenu, qui a fait toute sa carrière politique et d'homme d'État ici au Mali. Donc aujourd'hui, c'est une chance pour le Mali d'avoir le retour de nos compatriotes qui sont nés à l'extérieur, qui ont appris d'autres cultures, qui ont acquis des connaissances, même des relations, et qui reviennent et qui peuvent le faire bénéficier au pays. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer et surtout qu'il faut encourager.
Alors, docteur Abdoulaye Konare, les retours de ces Maliens au pays, est-ce que vous pensez que ça a un impact économique sur le pays déjà ?
Tout d'abord, je remercie tous les auditeurs du studio Tamani. Je remercie Doussouba Konaté et je lui souhaite bonne chance pour les futures entreprises au niveau du pays. Donc, sur le plan économique, je vous remercie également de co-débattre avec nous pour ceci et dire que le ministère auquel vous appartenez joue un rôle crucial dans la recherche même des données que nous avons au niveau de l'enseignement supérieur. On vous remercie énormément par rapport à cela. Donc, pour en revenir à l'impact économique du retour de ces migrants, ce que vous devez savoir d'abord, c'est que les migrants, comme vous l'avez dit, il y a une partie qui revient au pays volontairement et une autre partie qui vient involontairement. Et beaucoup d'entre eux ont des projets lorsqu'ils sont de retour. Et ces projets-là n'arrivent pas à voir le jour pour certains, mais d'autres arrivent à les appliquer. Parce que tout simplement, ceux qui ont vécu dans ces pays-là ont acquis beaucoup d'expériences. Et ces expériences-là, en les partageant avec la communauté, ceci peut amener déjà une valeur ajoutée au pays, à la culture, à l'aspect économique de façon générale. En plus de cela également, en les aidant, ça permet au pays de gagner en faisant en sorte que les migrants, ceux qui sont tentés de partir et de suivre la même voie que ces derniers-là, puissent rester chez eux, savoir qu'en restant au Mali ici, nous avons la possibilité de pouvoir créer des pôles de développement sur le plan local, mais aussi sur le plan international même, de se faire connaître. On y reviendra peut-être dans le débat. Il y a des exemples de ce genre qu'on peut citer à foison. Mais ce que moi je m'aimerais surtout ajouter, c'est d'avoir d'abord, avant de parler de retour, de parler des causes. Parce que bon, elle est née en France. C'est la raison pour laquelle, bon, peut-être on va prendre son cas comme étant un cas isolé par rapport à d'autres, parce que beaucoup de gens quittent ici pour aller directement dans ces pays-là. Maintenant, ils rencontrent beaucoup de péripéties, ils rencontrent beaucoup de difficultés pour pouvoir s'insérer. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux s'attachent également au pays d'origine et ne coupent pas les liens. Et le retour est beaucoup facilité à leur niveau que par rapport à quelqu'un qui n'a jamais vécu ici. Donc l'impact économique, pour faire bref, pour ne pas monopoliser la parole, il est réel. Sur le plan où ça peut amener énormément de valeur ajoutée au pays, mais aussi ça peut amener un manque à gagner au pays, parce que l'envoi de ces fonds, des fonds des migrants, est très important pour un pays comme le Mali. Donc on a quelques statistiques ici qui montrent que, tout simplement, en 2020, les migrants ont apporté à peu près 205 milliards de dollars à l'économie malienne comme source de financement. Et ceci représente à peu près 8% du financement total qui est assuré par les IDE et puis l'aide publique au développement. Donc c'est colossal. Donc le fait que ces derniers reviennent au pays, ça peut avoir des impacts positifs, mais aussi ça, c'est un manque à gagner quelque part aussi pour les gens qui doivent recevoir ces fonds-là. Et même l'État qui perçoit des impôts, des taxes à travers ces envois de fonds.
Alors, de ce bas qu'on a été, vous avez parlé d'appartenance à ces pays, le fait de revenir chaque 2 ans, passer des vacances au pays. Mais est-ce qu'à côté de vous, vous voyez d'autres raisons qui peuvent pousser des jeunes établis à l'étranger à revenir au Mali? Au-delà de votre appartenance au pays, qu'est-ce qui peut pousser un Malien établi à l'étranger à revenir au pays?
Excellente question. Je pense qu'il y a, à mon avis, il y a plusieurs raisons, hormis l'appartenance ou bien en tout cas le sens du patriotisme. Il y a quelque chose qui a déjà été effleuré par M. Conaré ici, c'est le fait de revenir avec des projets déjà en tête. Et ça, je pense que ça arrive de plus en plus. Moi-même, je fais partie de deux différents réseaux. Donc il y a un premier réseau qui s'appelle le réseau REPAT, où encore une fois, donc, ce sont des Maliens qui peuvent être dans la même situation que moi, c'est-à-dire des gens qui sont nés, grandis à l'extérieur et qui ont décidé de tout simplement venir s'installer ici, ou alors des personnes qui sont allées étudier et qui reviennent. Donc je pense que quand en fait on revient ici avec un projet, avec le minimum, ou dépendamment de la connaissance que l'on peut avoir du contexte malien, du contexte socio-économique, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place, mais il y a encore beaucoup d'écosystèmes à développer. Que ça soit l'agro-business, que ça soit l'entrepreneuriat des jeunes, que ça soit dans le domaine de la santé, bref, dans tous les... que ça soit dans les services sociaux de base, ou alors que ça soit même dans le récréatif, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je pense que le fait de venir ici et de voir que on peut créer une entreprise, on peut mettre en place un projet avec d'autres personnes, que ça soit avec les membres de nos familles ou que ça soit avec juste d'autres personnes qui sont intéressées, et des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc je pense qu'il y a déjà ce premier point là, et puis peut-être un autre exemple. Je pense aussi qu'il y a, et peut-être que ça c'est un peu lié aussi au patriotisme, ou peut-être pas, mais moi on m'a souvent dit, il y a une phrase qu'on me disait souvent à l'université, c'est que on encourage les gens à faire du bénévolat, c'est-à-dire à s'impliquer en tout cas dans la communauté où ils vivent. Et je pense que c'est important de s'impliquer dans la communauté où on vit, mais dépendamment du sentiment d'appartenance que tu as aussi, c'est important de s'impliquer là d'où tu viens, en fait. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Et puis, moi, il y a une phrase très souvent qu'on me dit depuis que je suis là, on me dit « Mais Doussouba, tu es retournée au Mali, mais qu'est-ce que le Mali a à t'offrir ?» Et moi, je leur réponds souvent, c'est pas cette question-là, en fait, qu'il faut se demander. C'est qu'est-ce que nous, on peut offrir au Mali. Parce que oui, on vient pas là forcément pour profiter d'un pays, hein, mais on vient aussi pour contribuer à son développement. On s'installe, on veut s'intégrer socialement, économiquement. Donc, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'est-ce que nous aussi on peut faire. Et je pense que dans ce sens-là, c'est là où c'est très important, en fait, de soit venir avec des projets, ou alors de chercher à s'intégrer. Socialement parlant, professionnellement parlant, de trouver un travail et de voir comment on peut contribuer.
On va en venir savoir si votre insertion socio-professionnelle a été facile. Alors, Mohamed Lamine Ban, vous, au niveau de votre structure, est-ce que vous avez recensé le nombre de Maliens qui décident de revenir ? Y a-t-il des chiffres ou bien y a-t-il des statistiques qui parlent de Maliens ayant décidé de revenir, par exemple, au pays ?
Ok, la question des statistiques sur les questions de retour, je pense que là où on a des statistiques fiables, c'est les retours assistés. Mais les personnes qui ont épuisé leur cycle d'immigration, qui reviennent d'eux-mêmes, de plus en plus, on a des manques de statistiques, surtout depuis qu'à l'aéroport, on a cessé de faire des enregistrements sur des fiches d'enregistrement. Et c'est maintenant avec le passeport biométrique, il est à poser le truc. Bon, maintenant les statistiques se retrouvent à un autre niveau, c'est géré directement au niveau de la police aux frontières. Concernant les retours assistés, nous avons ces chiffres-là, des retours assistés, qui tournent pour 2021, on a 3692 personnes. Et pour 2022, on n'est pas à la fin de l'année, mais on est déjà à 4485. Mais il faut savoir que les retours de type des gens qui ont fini leur cycle de migration, qui reviennent au pays pour se réinsérer économiquement, soit pour faire des affaires, ou bien de créer des entreprises, ou bien, dans le cadre de l'emploi, ceux-là, nous n'avons pas des statistiques sur ces questions-là, mais il faut savoir que c'est les plus nombreux, même si on n'en parle pas. Ils sont dans l'entreprise, ils sont l'entreprise en général, ils sont dans l'artisanat, ils sont dans la distribution, ils sont dans le commerce. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous parcourez des centres commerciaux comme le Grand Marché, etc., quand vous faites une petite enquête, vous allez voir les grands tenants de ces entreprises-là, le plus souvent, ont eu à avoir un séjour à l'étranger. C'est des gens qui font souvent le petit commerce, mais il y a d'autres qui tournent avec des grosses entreprises qui font des gros investissements dans le domaine de l'immobilier, comme je l'ai dit, dans le domaine du transport. Les premières entreprises du transport au Mali, c'est des entreprises qui sont créées le plus souvent par les Maliens de l'extérieur, aussi qui investissent aussi dans l'immobilier. Quand vous allez considérer, par exemple, les terrains de l'ACI et dans les domaines viabilisés, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces parcelles-là ont été acquises par des Maliens établis à l'extérieur. Donc, à travers ça, qui font des transferts d'argent. Mon ami venait de parler, M. Konaré venait de parler du volume des transferts. Je pense qu'un lapsus l'a fait dire que c'est 8% des investissements directs étrangers. Non, c'est 8% du produit intérieur, du produit national brut. Seulement, concernant l'aide publique au développement, c'est 3 fois l'aide publique au développement. L'apport des Maliens de l'extérieur en termes de transfert financier, c'est 3 fois l'aide publique au développement. Donc, plus que tous les partenaires qui apportent au Mali, ça, c'est dans le domaine financier. Mais dans le domaine du savoir-faire aussi. Du savoir-faire, il y a des gens qui, des hauts cadres, des techniciens supérieurs qui ont appris dans des universités, dans des écoles, mais aussi, il y a des ouvriers qualifiés qui ont appris dans des grandes entreprises comment le savoir-faire qu'ils transfèrent ici à travers leur savoir-faire, certains dans la mécanique, d'autres dans la menuiserie, d'autres dans l'agro-industrie, l'agroforesterie, etc. Quand vous allez considérer, par exemple, aujourd'hui dans le domaine de la pisciculture, le promoteur d'une grande entreprise piscicole ici au Mali, pour ne pas le nommer, est un Malien qui était établi à l'extérieur, pour ne prendre qu'un exemple. Donc, pour me résumer, il y a le transfert financier, il y a le transfert des compétences et aussi, comme on l'a dit, il y a aussi ceux qui participent à la vie institutionnelle du pays, à l'enseignement, je pense aux Tocten. Le programme Tocten, même si pour le moment il a des problèmes, nous souhaitons qu'il les reprenne entièrement pour que ces Maliens qualifiés puissent apporter beaucoup à notre pays.
Alors, docteur Abdoulaye Konaré, Monsieur Ban vient de parler, d'énumérer beaucoup de projets et parler aussi de l'apport des migrants dans le développement du pays. En dehors de l'envoi, de l'argent qu'ils envoient dans le pays, est-ce que ces impacts-là sont visibles? Est-ce que sur le terrain, c'est visible?
D'accord. Donc, avant de continuer, j'aimerais un peu revenir sur les causes de retour évoqué par Doussouba Konaté. Mm-hmm. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, comme je l'ai dit tout de suite, il faut voir ceux qui sont établis en Occident par l'entremise des études ou bien par le fait qu'ils sont nés là-bas et ceux qui ont tenté leur chance à travers des voies beaucoup plus risquées pour pouvoir arriver là-bas. Et les causes diffèrent. Par exemple, pour ceux de la diaspora, on va les nommer ainsi, la situation familiale peut être une cause de retour. Par exemple, il y a beaucoup qui reviennent à cause du fait que, comme elle a si bien dit tout de suite, le fait que son père a décidé de revenir, c'est ce qui l'a amené à revenir au pays. Donc ça peut être également le fait qu'il y ait certains qui sont partis grâce à des bourses ou bien qui sont partis pour chercher la connaissance et qui sont revenus au pays à la fin de leur étude pour faire profiter au pays leur expérience. Ensuite, il y a d'autres aussi qui sont partis par d'autres voies mais qui ont duré là-bas et après leur retraite ou bien arrivés à leur retraite, ils ont eu un savoir-faire parce qu'ils ont travaillé dans des domaines professionnels et ils ont voulu revenir au pays pour partager ce savoir-faire-là et créer des entreprises dans ces domaines où ils ont acquis assez d'expérience. Et il y a également le fait que certains voient, à travers le retour, une opportunité d'affaires ou des opportunités d'affaires. Parce qu'il faut qu'on le dise, notre pays, comme la majeure partie des pays de l'Afrique aujourd'hui, sont des pays très attractifs. Donc, dans beaucoup de domaines. Donc, elle a évoqué certains domaines tout de suite. Par exemple, si on prend l'agriculture. Au Mali, ici, moins de 10% des terres arables sont utilisées pour l'agriculture. Donc, on a beaucoup à faire. Or que nous avons deux fleuves pratiquement qui traversent le pays, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, qui nous permet de pouvoir pratiquer beaucoup de techniques pour pouvoir améliorer notre production agricole. Donc, n'en parlons pas des mines. Les ressources minières existent et demandent à être exploitées. Vous avez également des potentialités dans le domaine de l'énergie, l'énergie solaire, les biogaz et tout le reste. Vous avez également le tourisme, l'hôtellerie et les services de façon générale. Donc, qui sont des opportunités pour ces migrants-là pour revenir dans le pays et faire des affaires. Donc ça, déjà, c'est un élément à prendre en considération. Maintenant, pour ceux qui reviennent de façon forcée pour certains, par le fait que peut-être ils n'ont pas eu beaucoup la chance d'aller jusqu'en Europe, mais ils ont eu à avoir une certaine expérience. Beaucoup d'entre eux reviennent à cause de l'insécurité croissante de la région. Des routes migratoires qui sont de plus en plus dangereuses à travers la traversée de la Méditerranée. Il y a beaucoup de gens qui perdent la vie aujourd'hui et beaucoup décident de revenir à cause de cela. Et en plus de cela également, il y a le renforcement des contrôles aux frontières de ces pays à la porte de l'Europe qui décourage beaucoup d'entre eux. Donc ce sont ces quelques éclaircissements que je voulais apporter par rapport au retour. Maintenant, à part le fait que ces migrants envoient beaucoup d'argent dans le pays d'accueil, il y a d'autres éléments dans lesquels on peut noter ces retours-là, on peut voir l'impact de ces retours-là. Donc si vous regardez par exemple, comme le professeur l'a dit, nous en tant qu'universitaires, on a beaucoup bénéficié du retour d'imminents professeurs qui ont servi à l'extérieur pendant des années. Moi, personnellement, je peux citer Feu Karamoro Kané, qui est un éminent économiste qui a beaucoup servi plutôt au Sénégal, avant de retourner au pays ici et former la jeune génération. Et je suis un de ses élèves, un de ses disciples, qui il a paix à son âme d'ailleurs, et qu'il a formé et forgé pour pouvoir prendre le relais. Donc ça, c'est déjà un premier aspect sur lequel on peut beaucoup voir l'impact de ces retours-là sur le pays. Donc si on prend également, comme Monsieur Ban vient de le souligner, il y a également dans le domaine du tourisme, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans le tourisme malien qui sont des gens qui sont revenus au pays pour pouvoir faire partager leur expérience et montrer aux générations futures qu'on peut revenir au pays et faire beaucoup de miracles. Donc à travers ces deux aspects déjà, on peut voir l'impact de ces migrants-là ou du retour de ces migrants-là sur l'économie malienne.
Alors, de Souvar Konaté, vous avez décidé de revenir au pays et vous êtes là aujourd'hui. L'insertion socio-professionnelle, est-ce que cela a été facile?
Merci beaucoup pour les compléments d'information. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très important, et que moi, je vois beaucoup, en tout cas, des personnes dans les différents réseaux où je suis. Il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent et qui créent des entreprises. Et ça, je trouve que c'est très pertinent parce que qui dit création d'entreprise dit création d'emploi. Et création d'emploi aussi dit contribution aussi au développement du pays. J'ai malheureusement pas de statistiques à ce niveau-là, mais quand même, je sais que c'est quelque chose qui est très répandu parmi les personnes qui reviennent de façon volontaire et même peut-être les personnes aussi qui reviennent de façon involontaire. Donc, pour répondre à la question, Bon, c'est sûr que je pense qu'aucune intégration n'est facile, hein, que ça soit au Mali, que ça soit en France, que ça soit au Canada. Aucune intégration est facile. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, je pense que c'est important d'apprendre à maîtriser le contexte. Et le Mali, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le domaine informel. Donc ça, c'est quand même... Des fois, c'est un petit peu un casse-tête d'essayer de savoir comment les choses marchent. Et c'est sûr que quand on a passé beaucoup de temps à l'international, et je dirais plutôt en Occident, parce que ça dépend des pays où aussi on reste, il y a certains pays où les choses sont très carrées. C'est-à-dire qu'il y a des procédures qui sont là pour absolument toute chose, où vraiment, à partir du moment où tu ne respectes pas ces normes-là, automatiquement, bon, ben voilà, il y a des conséquences.
Mais au Mali, ce n'est pas le cas.
Bon, au Mali, c'est pas forcément le cas. Mais peut-être de façon structurée, en fait, je dirais, pour moi quand même, la chose la plus importante, c'est l'insertion socio-économique, c'est-à-dire trouver un emploi. Pour moi, si on vient dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit et qu'on n'arrive pas à trouver un emploi, ça peut être une source de retour. Et à un moment donné, pour moi, ça a été le cas. Au bout de quelques mois de recherche d'emploi, j'ai sérieusement envisagé de retourner pour pouvoir trouver une occupation professionnelle, parce que bon, on a tous des petits besoins, on a des choses à faire, et c'est très difficile de rester sans travail. Et je pense que pour cette occupation professionnelle-là, ici au Mali, et encore une fois, comme un peu partout, hein, c'est-à-dire que oui, tu peux trouver un emploi par réseautage, ou alors, bon, il y a des plateformes qui existent où tu peux rechercher du travail comme Malibara, Malipage. Et je pense que ça marche plutôt bien, à condition que tu aies les compétences et les connaissances nécessaires aussi. Je pense que quelque chose aussi qui n'est pas facile et auquel je me heurte encore, et je pense que je me suis même heurtée encore à ça il y a à peine quelques jours, c'est les procédures administratives. Je trouve quand même que ici, par exemple, quand on va aller à la mairie pour aller chercher des documents, les procédures administratives sont très lourdes. Très, 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 très lourdes. Et des fois, j'ai l'impression que c'est même impossible, en fait, que c'est impossible d'obtenir certains documents. Et je trouve que cela facilite, en fait, la petite corruption. Et c'est ça qui est un petit peu, dommageable. Je sais qu'il y a quand même eu différentes initiatives de guides pour faciliter les procédures administratives qui existent, où on te dit, bon, ben voilà, pour aller chercher un certificat de résidence, tu vas à tel endroit, voici le montant que tu dois payer. Et je sais qu'il y a des journalistes qui ont beaucoup fait de sensibilisation par rapport à ces choses-là, et ça, c'est très bien. Mais le fait que certaines procédures soient trop lourdes et qu'on encourage la petite corruption, bon, malheureusement, ça, c'est définitivement quelque chose auquel on n'est pas habitué, pour être honnête, dans un premier temps, et quelque chose aussi qu'on ne veut pas forcément encourager. Je pense que moi, en plus... En tant que personne qui travaille pour une ONG qui fait la promotion de la bonne gouvernance, parce que le terme est en anglais, c'est accountability, mais ça veut dire redevabilité. Donc redevabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à sa population, et qu'est-ce que nous, la population aussi, au fait par rapport à l'État de façon générale ou au pays dans lequel on se trouve. Donc et une autre chose encore, bon, je pourrais donner plein d'exemples, mais je pense qu'on ne va pas trop...
Sur le plan social, les mariages, les baptêmes, est-ce que c'est facile de s'insérer?
Oui, je pense que ça, c'est très facile. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on veut participer à tous ces événements sociaux? Ça, c'est la bonne question, parce qu'on ne va pas se voiler la face. C'est important de participer à ces événements-là, hein, parce que ça fait partie de la culture malienne, et c'est comme ça qu'on apprend beaucoup de choses. Non seulement on rencontre beaucoup de membres de la famille, on apprend comment ça marche, et c'est aussi plaisant. Hein. Je pense qu'une des choses très importantes aussi, ou une des forces du Mali, c'est la famille élargie. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à travers cette famille-là, on a beaucoup de soutien. Donc oui, moi, je participe à certains mariages ou à certains baptêmes. Mais je dis pas malheureusement, mais non, je ne participe pas à tous les événements parce que c'est vrai que ça peut devenir en fait une contrainte sociale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une longue liste de choses quand même à faire avant de participer à ces événements-là. Il faut avoir de l'argent, il faut donner un petit peu au griot, il faut s'habiller d'une certaine façon, il faut se déplacer, il faut ci, il faut ça. Donc c'est sûr que si à côté tu as une famille, tu as des enfants, tu as un emploi, ça te laisse très peu de temps pour pouvoir participer à ces événements sociaux.
Alors, donc, voilà. Monsieur Mohamed Lamine Ban, vous, au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, est-ce qu'il y a un mécanisme, un système qui facilite l'insertion de ces Maliens qui décident de revenir, ou bien au niveau de l'État au Mali ici, est-ce qu'il y a des services, des mécanismes qui facilitent l'insertion socio-professionnelle de ces Maliens qui décident de revenir?
Oui, donc depuis 2014 et bien avant, mais depuis 2014 principalement, le Mali a adopté ce qu'on appelle la politique nationale de migration. Et dans les 8 axes de la politique nationale de migration, il y a un axe qui est consacré à la réinsertion des migrants de retour. Donc dans ce axe de réinsertion de migrants de retour, il y a une volonté politique qui est exprimée, qui est là. Mais les instruments de mise en œuvre rencontrent des difficultés souvent, des difficultés au niveau institutionnel. Par exemple, il y avait une volonté politique quand même qui était exprimée dans la politique nationale de migration dans le domaine économique et une volonté politique d'aller à un programme diaspora dans le code d'investissement. Ce programme diaspora était un programme qui pouvait faire une incitation aux Maliens établis à l'extérieur d'investir dans le domaine productif. Parce que ce qu'on n'a pas suffisamment dit sur ce plateau, c'est quand même qu'on a parlé du volume des transferts d'argent, mais il faut se rendre compte que la plupart de ce volume de transferts sont consacrés dans les domaines sociaux. Il y a une faiblesse relative des investissements dans le domaine de l'investissement. Je pense que l'idée, c'était dans le code des investissements de prévoir des aspects préférentiels pour encourager l'investissement productif. Il y a des pays qui l'ont fait et qui l'ont réussi. Aujourd'hui, si on parle d'Israël, si on parle de l'Éthiopie, si on parle de la Chine, pour ne donner que quelques exemples, le boom économique de ces pays qu'on appelle des pays émergents n'est autre chose qu'une préférence qu'on a donnée à l'investissement productif, à la promotion de l'investissement productif. Mais malheureusement, ce programme diaspora n'a jamais vu le jour. Il était avancé, mais il n'a jamais vu le jour. Mais en dehors de cela, je pense qu'aujourd'hui, il y a de belles initiatives qui sont en cours. Nous sommes dans un chantier, dans un vaste chantier qu'on appelle le FIPE. Le FIPE, c'est la facilité d'appui à l'investissement productif. C'est un instrument aujourd'hui qui va permettre de prendre en compte tous les aspects qui concernent l'investissement productif, les appuis financiers et les appuis non financiers. Vous savez que ce n'est pas seulement le problème financier pour investir au Mali, c'est le problème non financier. Elle a parlé, par exemple, des formalités administratives au niveau quand tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair et même si c'est clair, il y a des gens qui veulent le rendre opaque. Donc c'est de faire en sorte pour que l'investisseur potentiel qui veut investir puisse avoir un appui non financier dans le domaine de l'établissement des contrats, dans le domaine de l'enregistrement de l'entreprise, dans le domaine des demandes de fourniture d'électricité, dans le domaine de l'accès même au foncier. Vous savez que le problème foncier est un problème très, très crucial au Mali. On n'est pas parvenu jusqu'à présent à assainir ce domaine. Le titre foncier qui devait être l'instrument par lequel on devait protéger les gens, c'est au Mali seulement que vous allez avoir deux personnes qui ont un titre foncier sur le même lopin de terre. Chacun a son titre foncier. On ne connaît pas le vrai, on ne connaît pas le faux. Et souvent, des titres fonciers qui sont acquis à travers quand même des structures où l'État est présent. Par exemple, si on dit que l'Asie immobilière donne deux titres fonciers à deux personnes sur le même lopin de terre, on dit qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail d'assainissement à faire dans ce domaine pour que dans le domaine du foncier, que tout soit clair, parce que si vous voulez investir, vous ne pouvez pas investir dans l'air, vous investissez sur un sol. Pour avoir une entreprise industrielle ou bien une entreprise quelconque, il faut avoir accès à la terre. Que ce soit la terre agricole, que ce soit le foncier urbain, il faut assainir ce domaine. Il faut assainir aussi les domaines de formalité. Il y a un vœu qui est là, qui est de faire un guichet unique pour les Maliens de l'extérieur. C'est prévu dans la politique nationale de migration. Bon, à l'appui, on nous dit que le guichet pour les Maliens de l'extérieur est opérationnel dans les discours, mais sur les faits, il n'est pas là. Réellement, il n'est pas là. Donc, ce sont des axes sur lesquels je pense que le FAIP s'est apesanti. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de conception de termes juridiques du FAIP qui va prendre en compte non seulement les aspects financiers, c'est-à-dire comment accéder au financement. D'abord, on pense au diaspora bond. On pense à la contribution des entrepreneurs eux-mêmes dans le financement de leur entreprise, mais on compte aussi sur l'apport des institutions financières qui font partie du dispositif. Il y a l'État aussi et il y a les partenaires financiers qui vont faire des compléments. Je pense que ce nouveau dispositif nous permettra de sortir de tous les problèmes qu'elle a connus. Dans le domaine social, je pense que quand on veut investir dans l'entreprise, je voulais dire qu'il faut faire un choix. L'entreprise ne connaît pas les problèmes sociaux. L'entreprise est faite pour faire du profit et pour avoir un retour sur investissement. Il y a certains comportements sociaux qui font partie de nos valeurs culturelles que nous ne rejetons pas, comme elle l'a dit, ça peut beaucoup aider. Mais lorsqu'on est dans le domaine de l'entreprise, il y a un choix à faire sur la rentabilité de son entreprise, les ressources à consacrer exclusivement à l'entreprise, un seuil de dépenses qu'il ne faut pas atteindre ou bien même qu'il ne faut pas dépasser en tout cas, et un seuil qu'il faut éviter. Mais si on confond les deux, l'entreprise et le domaine social, c'est souvent pas compatible.
Alors, docteur Abdoulaye Konare, vous êtes économiste. Est-ce qu'on doit encourager ces retours aujourd'hui?
D'accord. Permettez-moi de revenir d'abord sur certaines difficultés.
On arrive pratiquement à la fin de l'émission.
D'accord. Donc, parce que c'est très important ce qu'elle a eu à dire. Oui. Parce qu'il y a certains aspects. Pour créer un développement, il faut qu'il y ait les facilités. Beaucoup se découragent à cause de certaines difficultés. Par exemple, le manque d'électricité, parce qu'il y a beaucoup qui mettent, des moyens avec des machines assez performantes, mais la fourniture en électricité étant insuffisante, ça décourage pas mal. Vous avez également l'état des routes, vous avez les problèmes, comme elle a évoqué, de la corruption, et le problème de la sécurité aussi, qui peut également décourager pas mal de personnes. Et ceci fait en sorte que beaucoup de gens se découragent au retour et retournent dans le pays d'origine ou le pays où ils avaient quitté, parce que tout simplement, ils ont trouvé des difficultés qui sont difficiles à relever, des difficultés qui sont difficiles à solutionner du tout. Et ensuite, pour en revenir aux structures, donc certes, l'État a beaucoup fait, comme M. Ban vient de le dire, mais il y a également des organismes internationaux qui sont là. Donc, sur le plan international également, vous avez l'Organisation internationale pour les migrants, qui œuvre énormément également pour le retour des migrants et le renforcement de leurs capacités en leur fournissant des formations de qualité pour pouvoir leur permettre de s'insérer professionnellement, mais aussi en leur fournissant des moyens pour pouvoir s'installer à leur propre compte et pouvoir se maintenir. Comme Madame vient de le dire, il y a également la création d'emplois qui peut se créer, qui peut en découler, et faisant en sorte que le territoire sur lequel la personne va décider de s'installer, il y ait toute une population qui va s'ancrer et faire en sorte que l'exode rural diminue. Donc si on en revient
au dernier point, donc à votre question, sur le fait que, est-ce qu'il faut encourager ? Certes, c'est très bien de les encourager. Moi, je trouve que, à travers son exemple, à travers d'autres exemples, il faut encourager ces gens-là à venir s'installer et nous faire profiter. Mais il ne faut pas les amener pour les amener seulement, il faut leur proposer également des solutions pour pouvoir s'implanter en créant des zones industrielles peut-être qui vont pouvoir leur permettre d'avoir les commodités pour s'installer et ou ensuite en facilitant beaucoup d'aspects comme par exemple la création d'entreprises avec le guichet unique. Je peux l'attester parce que lors de d'une de mes recherches, j'ai eu à avoir le même problème. Donc sur le papier, ça existe, mais dans la réalité, bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, pour ma part, je pense que c'est une très bonne chose de les ramener au pays pour qu'on puisse profiter de leur expérience, mais aussi de tous les fonds que ces derniers vont apporter au pays.
Alors, de ce pas Konaté, qu'avez-vous à dire aujourd'hui à ces jeunes qui décident d'emprunter le chemin de la migration irrégulière ?
Ah, wow.
Est-ce que ça vaut le coup?
Non, bon, bien sûr que non. Et puis je pense que personne ne peut encourager même l'immigration irrégulière. Hein. Moi, ce que je remarque en fait, c'est que les gens qui empruntent ce chemin-là, très souvent, il leur faut quand même une sacrée somme d'argent pour pouvoir passer toutes les différentes étapes. Et des étapes, il y en a beaucoup, hein. Peut-être que tu vas quitter Bamako, tu vas arriver à Tombouctou, tu attends qu'il y ait des passeurs qui te fassent passer en Algérie. Après, il faut qu'il y ait encore d'autres passeurs qui te fassent passer la mer. En tout cas, bref, il y a vraiment tout un long cheminement où à chaque fois, tu dois débourser de l'argent. Et en général, ces personnes-là, quand ils vont tenter leur chance à l'international, c'est pourquoi ? C'est pour, encore une fois, trouver un emploi, avoir un revenu de façon régulière pour pouvoir subvenir à leurs besoins et subvenir aux besoins de leur famille. Et très souvent, ces gens-là, ils ont 3-4 millions. Hein. Ils doivent avoir 3-4 millions. Mais moi, ce que je me dis, c'est ce 3-4 millions-là, si cette personne-là l'investissait ici au Mali, quelles sont les retombées en fait, que cette personne-là pourrait avoir ?
Est-ce que la personne est consciente en ce moment que ces 3-4 millions peuvent lui permettre de créer quelque chose ? Et il y a cette question aussi qui se pose souvent.
Est-ce
qu'ils sont assez conscients du fait que l'argent qu'ils ont maintenant peut permettre qu'ils puissent construire quelque chose de bien dans leur pays au lieu de voyager avec ?
Exactement. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de travail de sensibilisation aussi qui est à faire autour de cela. Parce que, et non seulement un travail de sensibilisation, mais un travail aussi de partage des succès. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on ne voit pas assez, mais c'est important de partager les success stories ici qu'il y a au Mali. Il y a beaucoup de personnes qui ont créé des entreprises et qui sont très loin, qui sont devenues des millionnaires, des multimilliardaires. Donc, je pense que c'est important de partager de plus en plus et de dire qu'au Mali, c'est possible. Et c'est vraiment ça qu'il faut que les gens aient dans la tête. C'est-à-dire que tant bien pour les personnes, les candidats à l'immigration irrégulière, et tant bien, en fait, à la diaspora, leur faire comprendre que oui, au Mali, c'est possible. Mais je pense que, comme M. Van et M. Konaré aussi l'ont dit, il y a aussi un certain travail quand même à faire de faciliter la tâche. Je pense qu'il y a énormément de pays à travers le monde. Il a cité Israël, il a cité l'Éthiopie. On peut même parler des Émirats arabes, qui était un pays complètement désertique. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la place où tout le monde veut être. Mais qu'est-ce qu'eux, ils font ? Ils facilitent aussi beaucoup les investissements. Et je pense qu'avec les statistiques aussi qu'on a eues, le fait de savoir que la diaspora malienne envoie chaque année 205 milliards de dollars, je pense qu'il y a quand même un potentiel ici d'investissement qui est très lourd. Mais il faut vraiment l'encourager, non pas forcément encourager les petits besoins qui restent vraiment tout petits et puis essayer de voir... de voir plus grand, je pense.
Le thème du grand dialogue d'aujourd'hui, c'était réinsertion socio-économique des migrants de retour au Mali, défis et perspectives. Nos invités étaient Mohamed Lamine Ban, chargé de la migration au Hoko. Allez-y. Oui, ok, allez-y. C'est déjà la fin de l'émission, ouais, monsieur. On aura d'autres occasions, oui, okay, d'en parler. Oui.
C'est la fin de l'émission. Je voudrais dire, je m'appuie sur deux cas. On a un projet en cours avec nos amis italiens qu'on appelle Barani Irua. Barani Irua, c'est quoi? C'est encourager les jeunes à investir dans le domaine de l'agriculture, dans les terroirs, dans les zones de départ. Et aussi pour faire la promotion de ceux qui sont revenus avec succès. Je crois qu'on a vu avec le Premier ministre, celui qui a créé le fourneau.
C'est la fin de l'émission. Nous, comme je le disais, nos invités étaient M. Mohamed Lamine Ban, chargé de la migration au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Doussouba Konaté, migrante de retour, Dr. Abdoulaye Konaré, économiste. Moi, je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission qui a été coordonnée par Mamadou Touré. Merci et à demain.
Merci.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Halou Mandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.